sur Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Transméditerranéenne, Italie.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, vous voici à nouveau sur Agora Côte d'Azur pour votre émission préférée, cette émission franco-italienne. Bonjour Barbara, bonjour Marcel.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, je pense que vous allez nous parler d'une, on dit une autrice, bien, Milena Agus.
Eh bien, oui, Milena Agus, qui est née en 1959 à Gênes, dans une famille sarde. Elle vit à Cagliari, en Sardaigne, où elle enseigne l'italien et l'histoire, dans un institut technique. Mais elle s'est mise également à écrire. Son premier ouvrage s'intitule « Mentre dorme il pesce cane », quand le requin dort.
Anche se allora dico, dicevo per gli ascoltatori italiani una piccola traduzione. Dunque oggi si parla, come ha introdotto Marcella, di Milena Agus, che è adesso conosciuta un po' dappertutto, e ha parlato appunto della sua prima opera, che è Mentre dorme il pesce cane. E questa donna è nata a Genova, però è di origine sarda ed è un'insegnante di italiano e di storia in un istituto tecnico. E tra l'altro si è messa a scrivere.
C'est donc à ce moment-là qu'on la découvre en France?
Pas du tout. C'est son roman Mal de pierre, en 2006, qui l'a révélé. Le public français, lui, la découvre avec la traduction qui paraît en 2007. Le succès de ce roman se propage en Italie et la fait connaître dans le monde entier.
Effettivamente, sì, no, Mentre dorme il pesce cane non è la sua prima opera. Quello che ha fatto conoscere Milena Agus è Mal di pietre del 2006 e è stata rivelata al pubblico francese, tradotto in francese nel 2007, e poi questo successo di questo romanzo si è propagato in Italia e l'ha fatta conoscere poi veramente nel mondo intero.
Une petite idée du contenu. C'est une jeune femme, sans charme ni beauté, maladroite, basculant dans le statut de vieille fille et demandée en mariage par un veuf que la famille a hébergé quelque temps. On comprend que l'amour n'est pas au rendez-vous. L'épouse, qui n'arrive pas à mener à terme une grossesse, souffre de calculs rénaux. Elle va partir en cure et à son retour deviendra mère. Le fils, qui a une relation privilégiée avec son père, l'époux, partira plus tard en Amérique pour devenir musicien. On comprend qu'elle a rencontré l'amour, mais entre les apparences, la réalité, nous resterons intrigués jusqu'au dénouement que découvre la narratrice, sa petite fille, après sa mort.
Marcella ha letto un estratto del libro, no, di questo libro. Bal di pietra, e parla appunto, dice, una giovane donna senza alcun charme né bellezza, molto maldestra, è chiesta in matrimonio da un vedovo che la famiglia aveva tenuto in casa qualche tempo, no? Quindi questo tipo la sposa, si capisce che l'amore non è veramente lì, però la sposa, che non arriva a termine della sua gravidanza, soffre di calcoli renali e per questo motivo parte in cura e al suo ritorno diventa madre. E il figlio, che ha una relazione privilegiata con il suo padre, cioè lo sposo, partirà più tardi poi in America per diventare musicista. Si comprende da queste parole che ha incontrato l'amore, ma tra le apparenze e la realtà noi rimaniamo intrigati fino allo svolgimento ultimo, no? Che scopre la narratrice, che sarebbe la nipotina dopo la sua morte, dopo la morte di questa donna.
Signalons quand même qu'une adaptation française au cinéma sera réalisée en 2016 par Nicole Garcia.
Effettivamente, sì, c'è stata un'adattazione francese cinematografica che sarà realizzata nel 2016 di questo libro, Mal di pietra, fatto da Nicole Garcia. Lei l'avete visto? Non l'ho visto neanche io, ma me lo sono segnato per guardarlo. Volevo aggiungere una cosa, perché ho letto una volta un'intervista. Un'intervista a Milena Agus che chiedeva qual era il ruolo della musica nella tua vita, E Milena Argus ha risposto: la musica è molto presente nella mia vita, è la salvezza di mio figlio che è un musicista jazz e abita a Parigi, anche mio marito è musicista e proprio per il nostro matrimonio abbiamo comprato un pianoforte.
Là tu nous cites un morceau d'interview de Milena Argus. On lui demandait quel rôle joue la musique dans votre vie et sa réponse: la musique est très présente dans ma vie. Elle est le salut de mon fils, qui est un musicien de jazz et qui habite Paris. Et mon mari également est musicien. Et pour notre mariage, nous avons acheté un piano.
Bien, puisque vous parlez de musique, nous allons faire, nous allons en écouter.
Alors, ben, nous allons continuer à vous parler de Milena Argus. Et je vais vous parler un petit peu de son style. Dans ses romans, certaines expressions, certains passages sont en sarde. On pense vraiment à Andrea Camilleri, qui lui utilise le sicilien dans ses ouvrages. Mais on ne peut pas le dissocier du contenu de ses romans. Situation rocambolesque, amour compliqué, jalousie absurde, rêve complètement décalé du réel qui mêle échec inévitable et épisode ou dénouement heureux, voire même miraculeux. Mais dans tous ces livres, on retrouve des femmes qui ne s'adaptent pas au cadre établi et qui transgressent par choix ou pour survivre.
Eh sì, Marcella, hai ragione, stavo ascoltando le tue parole con molta attenzione. Effettivamente parli dello stile di Milena Argus. E lei nei suoi romanzi ci sono certe espressioni, certi passaggi che sono in dialetto sardo e, come hai fatto ben notare, si pensa subito a Andrea Camilleri, che lui utilizza il siciliano, no? nelle sue opere. E la stessa cosa fa lei. Ma non si può tutto ciò dissociare dal contenuto dei suoi romanzi, che sono delle situazioni veramente quasi assurde e molto complicate, degli amori difficili, delle gelosie assurde e dei sogni che sono molto distanti dal reale, veramente con una discrepanza incredibile che imbrogliano, insomma, le sfide personali, gli scacchi inevitabili, gli episodi o il risultato, e delle volte il risultato felice e delle volte quasi miracoloso, come dici tu. Ma in tutti i suoi libri si possono ritrovare queste donne che non si adattano assolutamente a quello che è al contesto imposto, ma che trasgrediscono per scelta o per sopravvivenza a volte. E vorrei, rispetto allo stile appunto di Milena, riprendo sempre riferimento a un'intervista che le è stata fatta, in cui le si chiedeva come costruisci una storia, e lei disse: sono i personaggi che mi vengono a trovare, scrivo perché ne ho bisogno, tutte le mie storie riguardano un problema specifico al quale non so dare le risposte immediate, e i personaggi si fanno strada in me mostrandomi le varie possibilità di sviluppo. Quello che cambia sempre è il finale, quasi sempre inaspettato, sempre utile. Magnifica.
Voilà, tu reprends un morceau de l'interview où on lui demande comment elle construit une histoire, et sa réponse, c'est que les personnages, ce sont eux qui viennent la trouver. Elle écrit, j'écris parce que j'en ai besoin. Toutes mes histoires parlent de problèmes particuliers auxquels je ne sais pas donner de réponse immédiate et évidente. Les personnages se font un chemin à travers moi. Me montrant toutes les possibilités d'évolution de l'histoire. Ce qui change toujours, c'est la fin, qui est toujours inattendue, mais toujours utile. Il y a toujours un sens très intéressant et souvent très profond.
Bien, mesdames, vous avez parlé un peu d'amour et d'échec inévitable, mais vous savez très bien que la différence qu'il y a entre l'amour et une aventure, c'est qu'une aventure, ça peut durer.
Accord à Côte d'Azur.
Je vais la citer. Si un lecteur me dit qu'il a pleuré et ri en lisant l'une de mes histoires, je suis heureuse, car c'est ainsi que je vois la vie, misérable et merveilleuse. Et communiquer ce que je sens me comble.
Qui si sente probabilmente tutta la sincerità e l'umanità di Milena Agus, che dice, che citata da Marcella, che dice: se un lettore mi dice che ha pianto e ha riso leggendo una delle mie storie, io sono felice, perché è così che io vedo la vita, miserabile e meravigliosa al tempo stesso. Poter comunicare quello che io sento mi riempie di soddisfazione, mi soddisfa veramente pienamente.
Je vais un petit peu vous citer les thèmes récurrents de ces romans. Des femmes, jeunes, âgées, qui cherchent un sens à la vie, qui cherchent à comprendre le monde et les relations humaines, et particulièrement l'amour. Mais l'amour va avec la peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable. C'est vivre aussi avec la peur ou la certitude de ne pas le rencontrer. C'est aussi, s'il se présente, la perspective de le perdre un jour. Mais l'amour est partout, sous des aspects pas toujours évidents à découvrir, et il peut apporter le bonheur au moment le plus inattendu.
Come sei positiva, Marcella. Allora, Marcella qui ha parlato dei temi più, diciamo, frequenti dei romanzi di Milena. Allora, effettivamente ci sono sempre delle donne giovani, più anziane, che cercano un senso alla vita e che cercano di capire il mondo e le relazioni umane, e particolarmente l'amore. Ma chiaramente l'amore va di pari passo con la paura di non essere amata, di non essere amabile. Significa cioè vivere con la paura o la certezza di non incontrarlo, questo amore con la A maiuscola. Ed è anche, se è presente, la prospettiva di perderlo, questo amore, un giorno. Ma l'amore è ovunque, su degli aspetti che non sono sempre molto evidenti da scoprire, e questo può apportare una felicità nei momenti i più incredibilmente non cercati, no? Cioè quando non sono attesi.
Le personnage central, toujours féminin, décalé par rapport au monde normal, sauvage, fantasque, inadapté au regard des normes sociales, ou ne méritant pas, je le mets entre guillemets, d'être aimée. Elle compense ce sentiment de ne pas mériter par le don don de soi, de son temps, de ses biens, car l'indifférence aux biens terrestres est un élément important de ce monde.
Oui. Il personaggio centrale è spessissimo femminile, è sempre molto, diciamo, spostato, inatteso rispetto al mondo normale. Una immagine di selvaggia, di stravagante, inadattata al rispetto alle norme sociali, no? Okay, donne che non meritano, tra virgolette, di essere amate. E questo personaggio centrale pensa sempre il sentimento di non merito, di non meritare questo amore, via il dono di se stessa, del suo tempo, dei suoi beni. Perché effettivamente l'indifferenza ai beni terrestri, materiali, è un elemento molto importante del mondo di Milena.
Pour découvrir, lisez donc, par exemple, La Comtesse de Ricotta, Battement d'aile, Terre promise. E bien d'autres.
Sì, cita Marcella alcuni testi di Milena che vale la pena veramente di leggere, come La Contessa di Ricotta, La Terra Promessa, eccetera. Verrete, li scoprirete da soli, sono splendidi. Volevo giusto parlare di una, fa sempre parlando di questa intervista che ho letto, che mi ha molto colpito su Milena, perché non è che faccia molte interviste, non le rilascia molto, e le è stato chiesto che questa domanda: le donne sono spesso accusate di scrivere solo per loro stesse, che cosa ne pensi, Milena? E lei ha risposto: io scrivo cose che mi riguardano da vicino. Nel mio libro ci sono anche particolari intimi, piuttosto espliciti. Mia madre, infatti, ha un'edizione censurata da me stessa con il nastro isolante. È vero, è così, e sono certa che lei non abbia mai comprato un altro libro, perché è una persona che si preserva da certe cose. È vera, per esempio, la casa di Cagliari, la casa di mia nonna, la storia dei miei zii emigrati a Milano, esistono le vie, esistono i posti. E quando ero piccola mia madre non faceva altro che parlare di Cagliari, e quindi queste storie mi sono entrate dentro, sono impregnata.
Une des questions de l'interview donnée par Milena Agus: les femmes sont souvent accusées d'écrire pour elles. Voilà,
pour elles-mêmes.
Pour elles-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et elle répond qu'elle écrit des choses qui la touchent de près, que dans ses livres, il y a des récits personnels, intimes, assez explicites, et que, par exemple, sa mère a lu une édition qu'elle a elle-même censurée en cachant des passages avec du scotch. Voilà, bon, elle dit que c'est une personne qui se préserve.
Sa maman, oui.
Voilà, sa maman, oui. Et voilà, et c'est comme ça. Et elle cite des choses de sa vie, la maison de Cagliari, qui était la maison de sa grand-mère, l'histoire des grands-parents émigrés à Milan.
Ses oncles, oui.
Oui, ou les oncles, pardon. Les oncles qui ont existé. C'est dans Terre Promise. Et elle dit que quand elle était petite, sa mère ne faisait que parler de Cagliari, et que ces histoires sont rentrées dans son corps.
Oui,
voilà, l'ont complètement, je dirais, presque submergée.
Oui.
Eh bien, chers auditeurs d'Agora Côte d'Azur, voici le moment, vous arrivez le moment croustillant de votre émission. Voici le moment où nous allons vous dévoiler la recette, une des recettes italiennes savoureuses. Aujourd'hui, puisque Milena Agus est originaire de l'île de Sardaigne, nous allons vous faire découvrir les gnocchi à la sarde, dit entre autres Maloredo, mais nous ne vous traduirons pas plus loin, puisque je ne pense pas que ni Marcel ni Barbara ne maîtrisent la langue sarde. Donc, pour ce qui est de ces gnocchi à la sarde, pour 6 personnes, vous prendrez 400 g de gnocchetti, petits gnocchi, 250 à 300 grammes de saucisses sèches, à défaut chipolata, mais je ne vous le conseille pas, 800 grammes de chair de tomate, 2 à 3 gousses d'ail, quelques feuilles de basilic, safran, huile d'olive, sel. Pour la préparation, faire revenir l'ail haché dans l'huile d'olive, ajouter la saucisse coupée en tranches et faire dorer. S'il s'agit de chipolata, laissez cuire environ 15 à 20 minutes en mélangeant régulièrement afin que ça n'aère pas. Mais je vous répète, je préfère largement la saucisse et notamment des saucisses italiennes. Troisièmement, ajoutez le safran, le basilic haché et la chair de tomate. Faire mijoter à feu doux pendant quelques minutes, vraiment plusieurs minutes. Plus ça aura mijoté, meilleur cela sera. Faire cuire à part les gnocchettes pendant 12 à 15 minutes, puis incorporer la sauce cuisinée aux gnocchi. Bon appétit et à bientôt.